Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioalliance-plus.fr. Vous écoutez l'émission « Ici, on parlait des Cathares ». Je suis le docteur Jacques Jorme, je produis et j'anime cette émission avec un intervenant, un invité permanent, le pasteur Michel Jasse, passionné par les Cathares, leur histoire, leur vie. Bonjour à toi Michel et merci d'être Bonjour. Avec nous. Comment sont intitulés, le dit, cette émission est consacrée aux Cathares. D'où viennent les Cathares?
D'où venaient-ils?
D'où venaient-ils, oui, d'où venaient-ils
D'ici.
D'où venaient les Cathares, en fait?
D'ici.
Moi, l'idée, c'est qu'une translation d'Italie, mais en fait, pour toi, ils venaient d'ici.
De la terre occidentale, hein, enfin de l'Europe. Enfin, j'ai participé à des colloques sur Occitanie et Europe pour le catharisme. En fait, on ne sait pas exactement si ils ont d'abord été en Occitanie ou dans le Périgord, et puis après ils auraient influencé l'Italie, ou si c'est l'inverse, ils ont d'abord été en Italie, puis influencé l'Allemagne.
Mais moi, ce que je
on
savais,
sait pas
c'est
exactement.
Qu'ils
c'est vers l'an 1000.
Ils venaient d'Italie, et c'est une hérésie donc dualiste, qui venait d'Italie et qui est venue au sud de la France.
Oui, on n'arrive pas à faire la chronologie.
Mais pour toi, ils sont nés ici. C'est-à-dire que l'hérésie est née.
Oui.
Ah, mais bon, c'est.
Oui,
c'est,
oui. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait. Mais non, on fait que des suppositions.
Oui, non,
on les voit apparaître quand ils sont persécutés, au moment des bûchers. Et c'est à partir de l'an 1000. On trouvait des bûchers. En Grèce, en Italie, en Allemagne, en Flandre, en Périgord, et puis dans la région toulousaine, Carcassonne, etc. Donc en fait, y a un lien entre l'Occitanie et puis la Reconquista en Espagne avec les chrétiens qui étaient sous la domination musulmane, les mozarabes, et qui finalement ressemblent un peu à des cathares. Peut-être que c'était des vieux chrétiens qui n'avaient pas subi les influences de l'évolution du clergé franc et de la réforme grégorienne. Et les mozarabes, par exemple...
C'est un rite qui existe toujours hein, en Espagne.
Oui, je sais, oui. Oui, alors le terme...
Qui est vivant, quoi.
Oui, non, mais le terme, est, oui, mais alors, bon... qui a été valorisé sous Franco, etc. Il y a une liturgie mozarabe, mais là, les chrétiens mozarabes, c'est antérieur à la liturgie mozarabe. C'est plus ancien. Et en fait, les mozarabes ont été, quand les chrétiens d'Andalousie ont été sauvés par les croisés, ceux qui étaient pour la Reconquista, eh bien, ils ont été à la fois sauvés par des chrétiens venus du Nord, mais en même temps, on leur a changé leur théologie et on a changé le clergé, le haut clergé. Il y a eu des évêques qui ont été condamnés, etc. Oui. On les a traités d'hérétiques. Et en fait, ils étaient assez proches peut-être des chrétiens orientaux, parce qu'il y avait des contacts.
Oui.
On sait que, par exemple, en Andalousie, il y avait un moine qui était natif de Gaza. Et il y avait d'autres qui étaient en lien avec les chrétiens d'Égypte, les coptes. Alors voilà, donc il y a peut-être un lien avec les mozarabes. Et alors c'est pareil pour le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie a été dominé par les musulmans. Alors il y avait des chrétiens qui étaient sur les terres d'islam et qui n'avaient pas subi les influences du clergé officiel du nord de l'Europe.
D'ailleurs, tu parlais des coptes, ça s'est passé comme ça. Les coptes ont été contents de l'invasion arabe et musulmane parce qu'ils étaient en conflit avec Byzance et martyrisés par Byzance, et les arabes les ont protégés jusqu'à une certaine limite.
Voilà. Donc on peut dire ça. Mais alors, donc on fait des suppositions parce qu'il y a des proximités. Et en fait, par exemple, il y a eu... quand aussi il y a eu les hérésies des Ariens, les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths étaient Ariens. Et en fait, ils ont après, quand ils ont dominé l'Espagne, il y a un moment où ils se sont convertis au catholicisme. Mais en fait, les mêmes personnes qui étaient officiellement catholiques, on les a traitées d'hérétiques. Et en fait, il y a eu... donc en Catalogne, il y avait ces gens. Et en lien avec les chrétiens mozarabes d'Andalousie, ils étaient traités d'hérétiques et on projetait sur eux des hérésies du 4e siècle de notre ère. Donc en fait, peut-être que le catharisme est né dans ces zones frontières, enfin les Pyrénées, finalement. Et ou alors, autre zone frontière, c'était les pays allemands là, qui étaient près des derniers païens d'Europe du Nord. Quoi, et voilà. Alors donc, il y a eu un catharisme qui était, mais qui avait des contacts les uns avec les autres. Par exemple, on a trouvé des sermons contre les cathares des Flandres. Eh bien, ces cathares des Flandres disaient qu'ils avaient été évangélisés par des gens de Nevers et de la Charité-sur-Loire. Et qui, donc c'est des foyers hérétiques qui étaient eux-mêmes en contact, ceux de Nevers, les hérétiques de Nevers étaient en contact avec ceux de Béziers. Et puis ceux des Flandres avaient des contacts avec ceux de l'axe rhénan. Donc il y a quelque chose d'international.
Oui, il y a une européanisation, une internationalisation du phénomène.
Voilà, mais alors avec un lien avec Constantinople, le Péloponnèse et la Bulgarie. Et d'ailleurs, les cathares disaient, bon, par exemple, ceux des Flandres qui disaient qu'ils étaient en lien avec Nevers, etc., ils disaient qu'avant, ils étaient bougres, ils étaient de Bulgarie. Et on sait très bien que aussi dans la chrétienté du byzantine, il y a eu des monastères qui étaient un peu dissidents et qui se mettaient aux frontières, donc au nord du pays grec, enfin de culture grecque, et qui étaient donc les monastères bulgares avaient une réputation d'être hérétiques tout en se disant amis de Dieu, Bogomil.
D'accord. Donc c'est quand même très intéressant de savoir que les cathares. Leur lieu de naissance, ben c'est le sud de la France, hein, le pays Qatar. D'autant plus dramatique qu'on enlève si l'UNESCO enlève le terme de Qatar pour les châteaux.
Ouais. C'est-à-dire que c'est dans le midi où ils ont été les mieux protégés, quoi. Parce qu'en fait, il y a eu des cathares en Champagne. Eh bien, les seigneurs de Champagne, avant de partir en croisade, ont brûlé leurs hérétiques.
Ah d'accord, donc il n'y avait pas de problème.
Donc en fait, quand ils sont venus au moment de la croisade des Albigeois, ils s'étaient déjà débarrassés de leurs hérétiques.
D'accord. Alors, le terme cathare est tiré des écrits de Saint-Augustin, hein, par le moine, alors je prononce mal,
Egbert de Chenau.
Voilà, moine bénédictin du monastère Saint-Florin de l'abbaye de Chonner. Alors là aussi, Chenau. En Tanus, en Rhénanie, dont il deviendra l'abbé en 1666. Le terme cathare apparaît au XIIe siècle pour désigner les hérétiques. Oui. Il a été popularisé en français par l'occitanisme.
Oui, alors ça, c'est ce que les déconstructionnistes disent. Voilà, ils répètent, disent ça a été inventé par l'occitanisme, alors que c'est antérieur, puisque Bossuet parlait des hérétiques cathares.
Dans les années 60, au détriment de l'expression, donc tu l'as souvent utilisé, hérésie albigeoise, on parle des albigeois, les protestants, pas les albigeois. Et demeurait une incompréhension autour de ces cathares. Peux-tu nous en parler donc tu l'as déjà fait, mais... d'abord, comment s'appelaient-ils, eux, entre eux? Est-ce qu'ils avaient une dénomination commune?
Ils se désignaient comme chrétiens. Alors, aujourd'hui, pour désigner les hérétiques du midi des Corbières, si on disait on parle des chrétiens,
ça serait pas
très pédagogique, quoi. Donc on utilise le terme cathare parce que c'était le terme qui parlait de l'hérésie dualiste. On disait, le clergé catholique disait il y a deux hérésies. Il y a les cathares, c'est-à-dire les dualistes, ceux qu'on peut brûler facilement.
Le dualisme, c'est... le dualisme en religion, tu m'arrêtes si je dis faux, c'est en fait deux dieux. Hein, c'est pas le bien et le mal. Parce que dans le catholicisme, le protestantisme, il y a un dualisme, mais il y a une victoire à la fin du bien. Donc il y a un dualisme de dynamique. Mais, enfin, en principe...
Je conteste ce que tu dis. Parce que dans le catholicisme ou le protestantisme classique, il y avait un dualisme pour l'éternité, puisque s'il y a le paradis et l'enfer, c'est que d'un côté, il y aura Dieu, et puis il y a l'enfer éternel.
Oui, là, je viens de lire un truc sur l'enfer en disant que l'enfer n'est pas éternel, puisqu'il a été créé. Alors...
Oui, mais ça, c'est les théologies modernes. Les théologies officielles disent qu'il y a un paradis, et l'enfer et un purgatoire pour les catholiques.
Un purgatoire, ça, c'est autre chose. C'est une invention purement de l'Église, c'est pas du tout dans les Écritures.
Mais, c'est pas deux dieux. Non, c'est pas deux dieux. Les cathares se sont toujours dit monothéistes. Et Anne Bronon a écrit dans un de ses livres, elle a dit d'un monothéisme à sensibilité dualiste. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu bon, mais qui est caché. Parce que dans le réel qu'on voit, le monde visible, matériel, eh bien, il y a comme... Il y a comme un filtre qui nous empêche de voir cette réalité qui n'est révélée que par Jésus-Christ et les apôtres. Et par la venue du Saint-Esprit. Mais sinon, donc c'est pas du. Alors c'est les inquisiteurs qui disent oui, mais les cathares sont dangereux parce qu'ils croient en deux dieux. Non. Ils sont monothéistes.
D'accord. Et la différence avec la gnose ?
Alors c'est un peu comme le catharisme est un peu comme la gnose, finalement. C'est sauf que la gnose, bon, c'est difficile aussi d'interpréter la gnose. C'est
oui, il y a des gnoses.
Mais
il y a des,
les gnoses,
il y a,
on les
il y a
tous.
Plusieurs gnoses.
Oui, il y a plusieurs courants. Et puis les gnostiques étaient des dissidents qui étaient dans la grande église, sauf les martionnites. Les martionnites, Marcion avait beaucoup d'argent, oui. Il a pu payer des prêtres pour organiser des églises dissidentes, mais à part les martionnites, il n'y avait que la grande église catholique, mais les gnostiques, c'était des gens un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire, des gens qui vont faire des réunions de prière le vendredi soir, des catholiques ou des protestants charismatiques qui font des réunions, en plus des réunions officielles.
Ouais.
Et c'était un peu comme ça. Et donc, en fait, ils assistaient à la messe, aux cérémonies de la grande église, mais en plus ils avaient des réunions un peu secrètes ou alors ils voyaient au second degré, ils avaient un peu une vision un peu spirituelle, un peu hautain, enfin, en disant nous on comprend mieux au second degré. Quoi.
Ouais.
Et alors ils ont écrit des dans le judaïsme on dirait que c'est les midrashim, des midrashs qui présentent au second degré des sortes de petites légendes qui sont des textes mystiques. Et qu'on a découvert à Nag Hammadi en Égypte, et qui en fait n'était pas en concurrence avec le canon classique, parce qu'ils participaient aux offices de la grande église. Mais ils avaient ces textes qui étaient un peu hérétiques, qui ils se lisaient un peu en douce le vendredi soir.
Ce qu'on peut appeler des évangiles apocryphes.
Voilà, ces évangiles apocryphes. Mais qui n'étaient pas, qui concurrençaient pas. Les quatre évangiles canoniques. Bon, en fait, les cathares ressemblent un peu aux gnostiques, oui, effectivement.
D'accord.
Mais alors, donc, tu l'as très bien dit, hein, à part la question de Dieu, si c'est l'occitanisme qui aurait inventé au 19e siècle le catharisme, non, parce que c'était.
Non,
le catharisme existait avant. Mais en fait, et au Moyen-Âge, ça apparaît avec Yves de Chartres en 1116, le Concile de Tours. 1163, Herbert de Chanot, tu l'as bien indiqué, 1165 ou 1166, et puis le grand concile de Latran III, 1179, et qui parle des Albigeois, Cathares, il y a tous les noms.
C'est un concile contre.
Et on dit qu'ils sont dans la région entre Albi, Foix, Carcassonne, Toulouse. Ils sont bien localisés. Donc, quand les historiens déconstructionnistes disent qu'on ne les appelait pas cathares dans le Midi, si le clergé catholique et les textes de Latran III parlent des hérétiques comme des cathares, comme des manichéens.
Très bien. Vous écoutez l'émission, ici on parlait des cathares sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM ou en DAB+, avec Michel Jasse, spécialiste du catharisme, et Jacques Jaume, aujourd'hui, qui étaient en fait les cathares. Je vous propose une trêve musicale en écoutant un chant cistercien 12e siècle de l'abbaye de Toronnay.
Thank you.
écouter Si on parlait des Qatars avec Michel Jasse, une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM aujourd'hui, qui étaient en fait les Qatars. Michel, peux-tu nous éclaircir sur l'Église et les Qatars?
Voilà, donc d'abord
l'Église catholique et,
voilà,
et les Qatars.
L'Église majoritaire et l'Église dissidente.
Oui, dissidente oui.
En fait, donc d'abord un sourire. Ce qui est l'Église catholique a tout fait pour que le catharisme soit disparaisse et qu'on n'en parle plus.
C'est loupé.
Eh oui, parce qu'en fait, ils ont écrit des registres de l'Inquisition parce qu'ils étaient dans leur désir de faire disparaître l'hérésie. Ils étaient sérieux quand même. C'est pas l'Inquisition espagnole. L'Inquisition espagnole a perdu la tête.
C'est l'Inquisition dominicaine du sud de la France.
Oui, donc il y avait du scrupule.
Oui.
Donc ils avaient eu le droit de torturer, mais ils le faisaient peu. Mais quelquefois, ils torturaient. Oui, les déconstructionnistes disent qu'ils ont énormément brûlé.
Non, c'est
pas vrai. Les déconstructionnistes, qui sont donc...
les trois.
Qui sont d'extrême gauche. Et qui critiquent le catharisme comme une religion. Et toutes les religions, pour eux, sont ridicules. Et ils exagèrent beaucoup trop la violence de l'Inquisition en disant qu'on a fait avouer, donc sous la torture, les gens, ils ont dit n'importe quoi, ils ont avoué n'importe quoi. Donc on ne peut pas se fier sur les registres de l'Inquisition. C'est pour ça qu'ils disent ça.
Oui.
Mais c'est faux. Alors s'ils utilisaient un peu, quelquefois, de la torture, et il y avait beaucoup moins de bûchers à l'époque de l'Inquisition qu'à l'époque de la croisade. Au moment de la croisade, c'était les croisés brûlés.
La croisade albigeoise.
Au moment de la croisade des Albigeois, on dit que les populations brûlaient avec joie des centaines d'hérétiques. Il y avait des bûchers collectifs, c'était terrible. Alors qu'après, quand il y a eu le pouvoir français et royal qui s'est installé dans le Midi, et les inquisiteurs vont pourchasser les derniers hérétiques, mais les inquisiteurs essaient de faire le mieux possible dans le boulot. Donc ils ont écrit des registres de l'Inquisition et quand il y avait quelqu'un qui mourait sous la torture, il devait faire une messe pour de repentance. Et c'était, il y avait une confession parce que c'était mal pour eux. Normalement, l'Église ne doit pas faire des crimes. Et donc là, c'était un péché. Donc ils essayaient quand même de faire avouer les gens, mais de ne pas les tuer. Ils ont écrit ces registres d'Inquisition, et c'est à partir de ces registres qu'on voit l'histoire de Montségur, qu'on voit l'histoire de Montaillou.
L'histoire des Qatars.
C'est merci aux inquisiteurs de nous l'avoir tout écrit en détail. Et ces registres de l'Inquisition confirment les textes qui ont été écrits par les Qatars eux-mêmes. C'est défavorable au catharisme, les registres de l'Inquisition.
Oui.
Mais on voit que, par exemple, la liturgie du Consolament, entre ce que Bernard Guy, inquisiteur à Toulouse, dit du Consolament hérétique, correspond à ce que les registres, les rituels cathares qui ont été conservés en occitan ou en latin et qui présentent la liturgie du Consolament.
Oui, au niveau de l'histoire pure, c'est quand même très intéressant.
Ah oui, c'est formidable.
C'est intéressant. Ouais. Et c'est un peu curieux que l'Académie et l'Université veulent effacer ça, puisque ça existe, quoi. Donc c'est important. Mais alors, quelle a été leur fin au Qatar? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que vraiment, après la croisade, donc des chevaliers francs du Nord, il y en a eu, on a vu jusqu'à
1329, cinq bûchers près de l'Aude, en dessous de la cité
donc,
de Carcassonne.
Ils ont refusé leur foi, ils ont abjuré, donc ils ont rentré dans les rangs.
Oui.
Mais est-ce qu'ils ont continué à pratiquer d'une manière occulte, le soir, une église dominicale, clandestine? Sont-ils partis? Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis en Espagne.
En Italie.
Donc,
en Bosnie.
Ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, c'est difficile de faire. Mais ceux qui sont restés, comment ça s'est passé?
Alors en fait, on peut comparer entre l'histoire des Vaudois et l'histoire des Qatars. Les Vaudois se sont maintenus malgré les persécutions parce que c'était un courant laïque. Donc il suffisait qu'un chrétien qui avait été influencé par la prédication des pauvres de Lyon se lève avec un Nouveau Testament et dise « je vais vous interpréter la Bible de façon libre, et voilà ce que Jésus a dit, etc. » Le mouvement vaudois pouvait renaître. Mmh. Alors que le catharisme était beaucoup plus hiérarchique et sacramentel. Et en fait, on sait que quand il y a eu un renouveau cathare au XIVe siècle avec les frères Autier, qui étaient de la région de... du Sabartès, la région de Haute-Ariège, et puis,
oui.
Et puis le pays de Sceaux, enfin, qui donne sur l'Aude, une région enfin, près des pistes de ski aujourd'hui. Eh bien, et donc ils ont revisité toutes les régions qui avaient été cathares avant la croisade. Et ils ont relevé, ça Duvernois le montrait dans ses conférences, etc. Ils ont relevé le catharisme comme avant la croisade. Toutes ces régions sont redevenues cathares. La seule différence, c'est qu'avant la croisade, il y avait à peu près 500 bonhommes.
Alors, dis-nous...
C'est en fait ceux qui pouvaient prêcher, qui avaient ils avaient reçu le consolament, et ils avaient des heures de prière, etc. En fait, c'était des moines prédicateurs. Et les bons hommes, donc, et c'est eux qui pouvaient donner le Saint-Esprit par imposition des mains, le baptême du Saint-Esprit, le baptême chrétien pour eux. Le baptême d'eau étant simplement une erreur de l'Église catholique d'avoir baptisé les gens avec de l'eau, alors que c'était le baptême de Jean-Baptiste. Jésus a dit, bon, enfin, on disait que le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême, une préfiguration, une préparation à l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour eux, c'était la véritable Église est basée sur le baptême du Saint-Esprit, mais de façon sacramentelle. C'est pas le baptême du Saint-Esprit pentecôtiste d'aujourd'hui. Hein.
Oui, oui.
Mais alors la différence, c'est que donc à l'époque des frères Rottier, ils étaient plus que 5 parfaits. Enfin, les inquisiteurs les appelaient des parfaits. Il y avait les croyants cathares, mais qui n'étaient pas rentrés dans les ordres et qui n'avaient pas le droit de d'imposer les mains et de prêcher. Et puis les parfaits, mais alors, donc, il y en avait 500 avant la croisade, il n'y en avait plus que 5 au XIVe siècle. Et là, il a suffi que les inquisiteurs les prennent l'un après l'autre, et le dernier, c'est Bélibaste. Il y a eu Pierre Sands, on ne sait pas où il est parti, dans la région de Montauban, mais bon, on ne sait pas, il a disparu. Il y avait Bélibaste et Pierre Sands. Et Bélibaste a été brûlé à Villerouge-Terménès. Mmh. Et en fait, après, il semble que le courant hérétique cathare a disparu. Parce qu'en fait, les gens étaient favorables au catharisme, mais il n'y avait plus de dignitaires pour donner le.
Et est-ce qu'il n'y a pas eu un passage au culte? Est-ce que, en fait,
alors,
certains parfaits que les inquisiteurs n'ont pas pris, n'ont pas emprisonné, n'ont pas brûlé, est-ce qu'ils n'ont pas passé d'une manière occulte?
Occulte. Alors ça, c'était l'optique de Déodat Rocher, qui a été un de ceux qui a été maire du village d'Arc dans les Corbières, et qui était franc-maçon, qui a été juge à Béziers, puis il a été démis par le pouvoir de Vichy, etc., et qui a créé la société du souvenir d'études de cathares. Et il pensait que les cathares, après ces persécutions, avaient créé des petits groupes secrets, un peu comme après la franc-maçonnerie, quoi. Enfin, et puis il a créé aussi l'anthroposophie, donc ces milieux. Et René Nelly pensait que non. René Nelly qu'il y avait une mémoire de la population et que beaucoup, au moment de la réforme, étaient devenus protestants.
Oui, parce que ça collait bien.
Parce que ça ressemblait. Voilà. Mais en fait, en faisant un petit contresens par rapport au catharisme réel, c'était quand même, c'est pas du calvinisme, c'est pas du protestantisme.
Oui,
c'est un peu différent. Il y a des aspects plus catholicisants du catharisme.
Oui, parce que tu l'as bien dit, c'est sacramentel. Hein,
c'est sacramentel.
Donc il y a des sacrements dans le catharisme,
oui.
Il y a des sacrements. Hein.
Donc en fait, il est mort le catharisme.
Dans le consolamentum. Hein,
voilà. Et alors en fait, le catharisme, quand il est mort au XIVe siècle, la population locale était favorable au catharisme. Et même, on sait qu'on a des témoignages à Toulouse, les petites gens, quand ils voyaient des pèlerins qui venaient d'Italie, ils demandaient des nouvelles et des bons hommes, des chrétiens. Est-ce que vous avez vu des chrétiens? Ça vous entendu des chrétiens hérétiques? Parce que le clergé actuel, c'est des gens, ils ne sont pas du tout sincères, ils sont autoritaires et tout. Donc, est-ce que vous avez vu des chrétiens? Et en fait, donc, il semble qu'il y avait une nostalgie de ce vieux catharisme qui avait disparu. Parce qu'il ne pouvait plus. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques liens, peut-être. Et puis, il y a eu les nouveaux courants. Il y a eu les dominicains, quand même, avaient une certaine sincérité, etc. Enfin, ils pouvaient attirer les populations.
Justement, ça a été fait.
Pour répondre au catharisme.
Oui, ça a été fait pour répondre au catharisme.
Et les franciscains. Et alors, moi, j'ai travaillé une béguine, c'est-à-dire du tiers-ordre franciscain, qui était à Montpellier. Et en fait, elle est quand... elle a été consacrée par les évêques, etc. Comme béguine, elle priait pour les gens qui étaient sur le chemin de Latte, là où il y a l'actuel cimetière des protestants à Montpellier, en dessous de la gare. Et elle était là et elle priait pour les gens. Et les gens lui donnaient de la... Elle faisait la mendicité, comme les ordres mendiants faisaient la mendicité. Et puis, à un moment, il y a eu quelqu'un qui a dû cafeter auprès de l'évêque. Enfin, je ne sais pas. Il y a eu un procès. Et devant... Alors, c'est en 1415. Elle raconte ce qu'elle croyait. Et elle croit exactement les choses cathares. Elle n'a pas du tout une hérésie franciscaine, quoi. Alors que les Béguins, normalement, ils avaient des erreurs, une exagération de l'incarnation, etc., des cultes secondaires. Elle avait une compréhension dualiste du monde. Donc, en fait, peut-être que les derniers cathares, ça va être des franciscains un peu bizarres. voilà.
Bon, eh bien... Michel, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui encore sur les cathares. Pourrais-tu nous donner le titre de ton troisième livre sur les cathares et toujours son sujet ?
Alors, cathares et protestants.
Nous y sommes.
Oui, j'ai pris le même titre. je voulais d'abord écrire sur un site internet. Je voulais faire un site internet cathares et protestants. Et puis j'ai rencontré un éditeur. Les nouvelles presses du Languedoc, et puis qui m'a dit « Ah non, non, je vais le publier ». Le pauvre, ce livre a été vraiment bien publié, avec des belles photos, etc. Mais c'est les nouvelles presses du Languedoc. Les presses du Languedoc ont fait faillite, et puis les nouvelles presses du Languedoc ont fait faillite après coup. Mais j'ai les droits d'auteur aujourd'hui, je l'ai mis sur un site, finalement.
Mais le livre est sorti ou pas ?
Ah oui.
Il est sorti papier, donc...
Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus diffusé par Internet que sur papier.
Oui, non, mais en fait, c'est le travail qui est important. Le travail est sauvegardé,
oui,
si j'ose dire.
Oui, mais en fait, il y a aussi l'aspect un peu... Il y a un certain communautarisme des éditeurs ou après des librairies. Enfin, il faut soutenir les librairies. Mais par exemple, j'ai écrit un livre sur les cathares à Uzès. La librairie qui est à la place aux herbes à Uzès refusait de le vendre.
Ah.
Parce que ça partait...
C'était pas dans son optique.
C'était pas dans les listes des textes que Paris lui a envoyés. Alors, on dit, faut soutenir... Bon, alors, c'est quand même un peu paradoxal.
Oui, mais ça, c'est bon.
On a eu du mal à faire diffuser le film magnifique Bougre, de Fredo Valla.
Oui, qui est passé au Sémaphore.
Voilà. On a eu du mal parce qu'en fait, les cinémas art et essai, ils n'osent pas prendre films...
Et c'est pour ça qu'il y a des émissions comme ça, hein, où justement...
Radio Alliance Plus.
Où on peut aborder des sujets qui sont pas nouveaux, mais qui peuvent...
Qui déconstruisent notre modernité,
qui peuvent revenir et qui peuvent intéresser de nouveaux éditeurs, de nouveaux chercheurs. Merci encore à toi, Michel.
Merci à toi.
Et à très vite pour une nouvelle émission. Et si on parlait des cathares, et comme on le dit en occitan, adeus, siats, et elle... Cop Quinven.